Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter ce journal de la soirée. Au sommaire de cette édition du 12 juin 2017, procès des derniers ministres de Blaise Compaoré. Le Conseil constitutionnel remet en cause la Haute Cour de justice pour l'absence de recours à ses décisions. En Libye, un groupe armé dit avoir libéré Saif al-Islam, fils de feu Kadhafi, qui est toujours recherché par les autorités de Tripoli. Angela Merkel reçoit des dirigeants africains pendant 2 jours à 1 mois du sommet du G20 à Hambourg. En Russie, l'opposant Alexei Navalny et des centaines de partisans interpellés lors de manifestations anticorruption. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Onze personnes ont été tuées et plus de 900 détenus se sont évadés dimanche dans l'est de la RDC pendant l'attaque d'une prison par des assaillants non identifiés. Depuis 2014, des centaines de personnes ont été tuées dans une série de massacres attribués aux ADF Nalou dans la région de Beni, dans le Nord Kivu. Des dizaines de membres présumés de cette rébellion étaient incarcérés à la prison de Kangwai. Toujours en RDC, 2 assassins présumés des 2 experts de l'ONU tués en mars en RDC ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire de la capitale du Kasaï central. La 2e audience de ce procès a été consacrée à la réplique du ministère public aux exceptions soulevées par la défense. Le 5 juin a déclaré Maître Trésor Kabangou, un avocat des prévenus. Lundi dernier, à l'ouverture des débats, la défense avait mis en cause la compétence du tribunal à juger le crime de guerre, tout en estimant que la détention des 2 prévenus était irrégulière. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a tranché sur les recours portés par les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui sont actuellement jugés devant la Haute Cour de justice, Yacouba Ouédraogo.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi qui régit la Haute Cour de justice viole le principe d'égalité devant la justice. Il estime aussi qu'elle est contraire à la Constitution parce qu'elle ne prévoit pas de recours. C'est comme une remise en cause de la Haute Cour de justice elle-même. Les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont jugés pour répression des événements d'octobre 2014 qui ont entraîné la chute du régime. Leur procès est ouvert depuis début avril devant la Haute Cour de justice. Il a été renvoyé à plusieurs reprises avant cette décision du Conseil constitutionnel. Du coup, le procès des ex-ministres de Blaise Compaoré ne pourra pas se poursuivre tant que la loi sur la Haute Cour de justice n'est pas révisée par l'Assemblée nationale. Pour rappel, Blaise Compaoré, depuis sa chute, vit en Côte d'Ivoire et a obtenu la nationalité ivoirienne.
L'ONU a appelé les Centrafricains à un sursaut national pour trouver une solution politique et les bailleurs de fonds internationaux à tenir leurs promesses d'aide. S'exprimant devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial de l'ONU en Centrafrique, Parfait Onanga Anyanga, s'est déclaré très inquiet de la situation humanitaire déjà critique du pays et a estimé qu'elle pourrait empirer si les autorités centrafricaines ne facilitaient pas le retour dans leur foyer des réfugiés et des personnes déplacées. Plus de la moitié des Centrafricains, soit 2,2 millions de personnes, ont besoin d'aide, a-t-il rappelé. À moins d'un mois du sommet de Hambourg, Angela Merkel reçoit à Berlin des dirigeants africains. L'Allemagne, qui occupe la présidence du G20, souhaite attirer les investissements vers l'Afrique. Tatiana Mosso.
Déjà en mars, lors d'un sommet du G20 Finance, les grands argentiers des principales économies du monde avaient convié leurs homologues de Côte d'Ivoire, du Maroc, du Rwanda et de Tunisie à se joindre à eux pour mettre sur pied ce partenariat baptisé Compact with Africa. Cette fois-ci, dans une démarche qui se veut ouverte à tous les pays africains, seront également présents à Berlin les dirigeants du Ghana, de l'Éthiopie, du Niger, d'Égypte ou encore du Mali, aux côtés des institutions financières internationales censées apporter un soutien technique aux États pour leurs réformes. Car seul un pays du continent, l'Afrique du Sud, fait partie du G20, et jusqu'à présent, le développement économique africain n'a jamais été à l'agenda. Si la question des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe n'est pas évoquée en première ligne, elle est centrale pour l'Allemagne qui a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile ces dernières années. L'Union européenne ne semble pas en mesure de stopper cet afflux massif des migrants, pour beaucoup subsahariens qui rejoignent les côtes italiennes depuis la Libye. Pour Angela Merkel, le point central pour espérer endiguer ce flux est de s'attaquer aux causes profondes de la migration en offrant des perspectives aux populations qui essaient de fuir la misère ou les conflits.
Un groupe armé libyen affirme avoir libéré vendredi Saif al-Islam, fils de feu Muammar Kadhafi, mais il est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli qu'il avait condamné en 2015. Solange Niamouliza nous en dit plus.
Le groupe armé, la brigade Abou Bakr al-Sadiq, a affirmé que Saif al-Islam a été libéré en application d'une loi d'amnistie promulguée par les autorités non reconnues basées dans l'Est. Mais le procureur à Tripoli a estimé que la nature des crimes dont a été reconnu coupable Saif al-Islam fait qu'il ne peut pas bénéficier d'une amnistie. Ibrahim Massoud Ali, du bureau du procureur, a indiqué que Saif al-Islam est toujours recherché et doit comparaître devant la cour pour qu'elle lui signifie formellement sa condamnation. Cependant, il n'a pas confirmé s'il a été ou non libéré, comme annoncé par le groupe armé qui le détenait et qui s'oppose aux autorités de Tripoli. Son avocat Karim Khan n'a pas donné de confirmation ni de démenti. Le mystère reste entier. Saif al-Islam a été condamné en juillet 2015 pour son rôle présumé dans la répression du soulèvement contre son père en 2011. En juillet 2016, ses avocats avaient affirmé qu'il a été libéré à la faveur d'une amnistie, mais par la suite, cette information a été démentie.
Le gouvernement tunisien a pressé les ONG à communiquer leur financement étranger, une requête qui s'inscrit dans le cadre de la lutte anticorruption. Dans un bref communiqué, la présidence du gouvernement a annoncé que les associations nationales et internationales disposaient d'un délai d'un mois à compter de ce jour pour publier les aides financières étrangères dont elles disposent, conformément au décret-loi de septembre 2011 sur la liberté d'association. L'Égypte a bloqué une soixantaine de sites internet depuis fin mai, selon des ONG et membres des médias. Les autorités en avaient déjà bloqué une vingtaine le 24 mai, notamment celui d'Al Jazeera, le site égyptien Madame Asr, connu pour sa liberté de ton, et HuffPost d'Arabie. Ce lundi, le nombre total de sites bloqués atteignait les 62, selon l'Association égyptienne pour la liberté de pensée et d'expression.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le parti centriste du président français Emmanuel Macron se dirige vers une très large majorité à l'Assemblée. Lors d'un scrutin marqué par une abstention record, soit plus de 51%, le mouvement présidentiel La République En Marche a balayé les partis traditionnels au premier tour des législatives avec plus de 32% des voix, devançant largement la droite, les Républicains 21,5%, la formation d'extrême droite 13,2% et la gauche. Selon les projection par siège, REM et son allié du MoDem raviraient au deuxième tour dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges, bien plus que la majorité absolue. L'opposant russe Alexei Navalny et des centaines de ses partisans ont été interpellés ce lundi lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption. Salwa Jafari nous en dit plus.
Alexei Navalny est le trouble fête par excellence. En appelant à une manifestation dans 150 villes de Russie le jour de l'indépendance du pays, il avait comme objectif d'obliger le Kremlin à valider sa candidature à la présidentielle de mars 2018. Il est arrêté à la sortie de son domicile.
Poutine a déjà gouverné le pays pendant des décennies et ne veut pas quitter le pouvoir. Il refuse des élections libres à des véritables candidats à l'opposition.
Outre le leader de l'opposition, plus de 200 personnes ont également été interpellées, surtout à Moscou et Saint-Pétersbourg. Le principal opposant à Poutine avait créé la surprise le 26 mars dernier en faisant descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes, des jeunes pour la plupart, qui n'ont connu que Vladimir Poutine au pouvoir. Cette mobilisation suivait la publication par l'équipe de Navalny d'un film enquête accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev d'être à la tête d'un empire immobilier financé par des oligarchies.
Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, c'est le prochain fidèle de Donald Trump dans la ligne de mire de l'enquête sur l'interférence russe dans les dernières élections américaines. Il sera questionné mardi devant la commission du renseignement du Sénat en public sur ses rencontres avec l'ambassadeur russe aux États-Unis. Jeff Sessions a accepté de témoigner lors d'une séance publique comme le réclamaient les démocrates et non à huis clos. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Bonnes perspectives économiques pour l'Afrique, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et la Banque africaine de développement prévoient une augmentation du taux de croissance sur le continent, soit 3,4% cette année et 4,3% pour l'an prochain. Ces prévisions ont été présentées en marge du sommet du G20 sur l'Afrique à Berlin. Les investisseurs se ruent sur les titres souverains offerts sur le marché international par la Côte d'Ivoire. L'emprunt obligataire émis en euros et en dollars doit permettre notamment de pallier le manque de devises dû surtout à la chute du prix du cacao. Les souscriptions pour la tranche en euros ont atteint vendredi 4,4 milliards pour 625 millions d'obligations et celles en dollars 4,8 milliards pour 1,25 milliard d'obligations. Les deux levées de fonds sont dotés d'une maturité de 8 et 16 ans pour un taux d'intérêt de 5,12 et 6,25% respectivement. Les agriculteurs et pêcheurs déplacés par les attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria demandent désormais à pouvoir rentrer chez eux et reprendre leur travail, ce qui réduirait les graves pénuries alimentaires. L'agriculture et la pêche ont toujours été les piliers économiques de cette région, mais 8 années de violence et de déplacements massifs ont détruit toutes ces ressources. Aujourd'hui, des millions de personnes souffrent de la faim et certaines zones de l'état du Borno pourraient être en situation de famine.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par la NBA avec peut-être le titre pour Golden State.
Golden State qui joue le cinquième match à Oakland contre Cleveland cette nuit face aux Cavaliers. Les Warriors qui mènent 3-1 après leur défaite de vendredi dernier, 116 à 137 contre l'équipe de LeBron James. Mais Stephen Curry et Kevin Durant voudront sans doute tuer le suspense dans leur salle et ne pas laisser les Cavaliers remonter et conserver leur titre.
En football, retour sur les derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2019 en Afrique.
Hier soir, la Tunisie a pris un excellent départ dans les éliminatoires de cette CAN 2019. En battant à Rades, l'Égypte 1-0, la Tunisie prend seule la tête du groupe J. De son côté, le Ghana démarre fort en surclassant l'Éthiopie 5-0 à Kumasi. 3-0, c'est le score qu'a infligé la République centrafricaine au Rwanda. Et les fauves du Bazoubangui qui partagent la première place du groupe H avec le Sili National de Guinée qui a dominé, c'est une surprise, 3-2, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, début difficile pour le Cap-Vert, battu à domicile par l'Ouganda 1-0. Enfin, bonne prestation du Zimbabwe qui a étrié le Liberia 3-0 grâce à un seul homme, Moussona, auteur d'un triplé. Les Algériens, vainqueurs des éperviers du Togo 1-0, partagent la première place du groupe avec le Bénin qui a eu raison de la Gambie sur le même score. Le but signé Stéphane Sessegnon à Cotonou.
Et en tennis, Nicolas, ça bouge au classement mondial après Roland-Garros.
Une décima en poche à Roland-Garros, Rafael Nadal a atteint la deuxième place du classement ATP publié aujourd'hui, faisant du coup reculer de deux rangs le Serbe Novak Djokovic, quatrième, éliminé en quart de finale du tournoi parisien. Nadal a réalisé un véritable exploit sur le court Philippe Chatrier, aucun autre joueur n'ayant atteint un nombre aussi grand de victoires dans un même tournoi du Grand Chelem. La Reconquista est en marche pour le trentenaire après trois années difficiles. Quant à Novak Djokovic, il n'est jamais tombé au aussi bas depuis 8 ans dans le classement ATP. Chez les dames, la jeune lettonne Yelena Ostapenko, grâce à sa victoire inattendue samedi en finale du tournoi, a bondi de 35 places. Elle est désormais 12e au classement WTA. Elle entre pour la première fois dans le top 20. La roumaine Simona Halep, son adversaire malheureuse en finale, n'a pas tout perdu sur la terre ocre de Paris, puisqu'elle gagne 2 places. Elle est désormais 2e au classement WTA, reléguant Serena Williams enceinte à la 4e place.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Deux journalistes maliens, auteurs d'une enquête sur des comptes suisses de membres de la haute hiérarchie de l'Église, se disent aujourd'hui menacés. Ils avaient fait des révélations portant sur près de 7 milliards de francs CFA après des enquêtes basées sur des documents de banques suisses piratées, une affaire dénommée SwissLeaks. Bagassi Koura a joint à Bamako David Dembélé, journaliste à la Dépêche du Mali.
Bon, il s'agit de l'ouverture en Suisse en 2002 de 7 comptes chez HSBC. Un fait signé Conférence épiscopale du Mali et les documents auxquels on a eu accès sont issus des SwissLeaks. Voilà, et nous travaillons sur ce sujet, cette thématique depuis longtemps. Et donc, dans les documents, on voit des traces de rencontres entre les agents de la banque et le clergé malien. Les agents de la banque qui se sont très souvent déplacés à Bamako pour rencontrer Monseigneur Zerbo et autres. Ces rencontres ont eu lieu en 2005. Et en 2005, le portefeuille s'élevait à 12 millions d'euros sur ces comptes-là, ce qui équivaut à 7 milliards de nos francs.
Alors, il s'agit là de grosses sommes. D'où viendrait cet argent alors?
Bon, notre enquête avait pour objectif de savoir la provenance de ces ressources, parce que les documents ne nous le disent pas. Et ils n'ont pas coopéré. À la limite, on nous a mis à la porte, quoi.
Donc c'est depuis la publication de cet article que vous recevez les menaces?
Voilà, depuis la publication, effectivement. Nous avons très souvent des appels via des numéros masqués, vous voyez, et ils nous appellent tous les deux en même temps, et à des heures pas possibles, très tardives souvent.
Mais on ne peut pas dire que c'est le clergé qui vous menace?
Ben non, on ne peut pas l'affirmer de façon très ouverte, mais c'est nous qui avons fait les enquêtes et il y a des indices probants dans ce sens. C'est pas le clergé, mais je dis encore une fois que c'est vraiment des gens qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des subventions ou de projets financés par... voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, les réactions sont clairement visibles. Hein. C'est clairement visible. Parce que moi, je suis chrétien. Je sais. Voilà. Très souvent, je sais qui dit quoi là-dessus. Et dans le milieu, je connais pas mal de gens également.
David Dembélé est journaliste à la Dépêche du Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Un an et demi après l'attaque terroriste de 2016 à Ouagadougou, le café et restaurant Cappuccino renaît de ses cendres. Le 15 janvier 2016, des hommes armés avaient attaqué l'hôtel Splendide, le café et Taxi Brousse et le restaurant le Cappuccino dans lequel 30 personnes avaient péri. À l'occasion de la réouverture du restaurant, plusieurs membres du gouvernement sont allés soutenir le promoteur qui avait perdu sa famille dans l'attentat en plein cœur de la capitale burkinabé. Un reportage de notre correspondant Issa Napon.
Sur l'avenue commune Comment balayée par une fine pluie cette nuit, c'est la résurrection du café restaurant Cappuccino qui se jouait un an après l'attaque terroriste qui y avait fait une trentaine de morts. Une réouverture qui traduit la volonté du promoteur, qui y avait aussi perdu sa famille tombée sous les balles meurtrières des terroristes, de garder la tête haute. Gaëtan Santomena.
Ce qui est important pour moi, c'est de respecter la mémoire de ceux qui sont partis. C'est de ne pas accepter d'être inacceptable. C'est d'essayer de laisser un monde meilleur à nos enfants. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est passé à Paris, c'est passé à Londres, c'est passé à Bruxelles. Sécurité à 100%. On fait de notre mieux. On essaie de s'entourer de toutes les professions possibles et inimaginables. Et j'espère que ça ne sera produit plus jamais nulle part.
Voir ces lieux qui symbolisent la douleur de Ouagalais, touché de près ou de loin par le drame, renaître de ses cendres traduit le courage d'un homme, lâche le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Dandjeno.
Il y a dans cette réouverture une volonté nette d'un homme de considérer que ce qui s'est passé est certes important pour eux, mais que vivre et avancer est essentiel. Et le gouvernement dans son entièreté voudrait accompagner M. Gaëtan et dire qu'il y a eu certainement des événements très douloureux qui sont produits ici, mais que la réouverture du Cappuccino est l'expression d'une volonté d'un homme de redonner la vie et surtout la volonté d'un pays qui a envie de continuer à avancer. Donc, dans ces événements douloureux, il a su tourner la page, il a su se rendre plus fort.
Des clients à pour la circonstance n'ont pas voulu manquer cette première, une présence qui vise à transmettre un message, soutient les différents invités.
Ce qui m'a le plus motivé, c'est le fait de savoir qu'après ce drame-là, le propriétaire des lieux a tenu à rouvrir. Ça m'a tellement marqué parce que je me demande d'où il puise ce courage-là. Et je suis émue de voir que ça va, il a le moral haut. Il a rénové les lieux, le personnel est toujours dynamique comme avant. C'est un homme très courageux et je suis fière de ça, vraiment fière. Il faut qu'on l'encourage. Et moi, je suis prête à l'encourager. J'invite tous les citoyens burkinabés aussi à le faire. On va vivre en mettant Dieu au cœur de tout et puis se dire que tout ira bien.
On a le droit de montrer que la vie ne s'arrête pas là. Il faut qu'on puisse aller de l'avant. Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, qu'il accepte de réinvestir, de montrer qu'il faut qu'il arrive à réaliser ses rêves toujours. C'était un devoir vraiment pour nous de venir vraiment le soutenir, de montrer qu'on est avec lui.
Je suis très content d'être ici et de voir les secrets. Gaetano qui a le courage, la force et l'enthousiasme pour repartir après les drames qu'il a subi.
Tout est symbole donc que la réouverture du café restaurant Cappuccino, comme pour dire à tous ceux qui sèment terreur de désolation, non, vous ne changerez pas nos habitudes, non, vous ne nous empêcherez pas de vivre. Christian Apon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. Jeudi dernier, le pape a lancé un ultimatum de 30 jours aux prêtres du diocèse nigérian d'Ayara, dans le sud-est du pays, qui, pour des raisons ethniques, refusent depuis plus de 4 ans leur évêque. Ceux qui ne le feront pas seront déchus de leur office, prévient le Saint-Siège. Morgane Guiriec a joint Albert Mianzoukouta, notre confrère de Radio Vatican à Rome.
C'est un problème un peu récurrent. Il n'est pas spécifiquement africain, mais c'est un problème lorsque, bon, des prêtres qui sont appelés à travailler sous l'autorité d'un évêque, ben, trouvent que celui-ci n'est pas le bon, celui qui correspond à leurs attentes. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'un problème ethnique. Donc, des prêtres d'une autre ethnie s'opposant à ce que un Igbo devienne donc évêque de Ayara.
Alors, du coup, si ces prêtres ne se soumettent pas à cette nomination, il risque d'être déchu.
Alors oui, ça par contre c'est une chose assez inhabituelle et qui a frappé les esprits parce que le pape a tapé du poing sur la table et plutôt fermement. La fronde de ces prêtres dure depuis 2012 hein, sous le prédécesseur du pape actuel, le pape Benoît XVI, que l'évêque a été nommé et que ces prêtres donc qui sont appelés à être ses adjoints dans la pastorale, eh bien, lui conteste la légitimité de venir s'installer donc dans ce diocèse. Alors le pape, en recevant une délégation de Ayara la semaine passée, a été très clair. Il a sommé les prêtres, un, de lui faire parvenir une lettre dans laquelle il réaffirme leur obédience et deux, d'accepter ce que le Saint-Père a décidé depuis 2012 et trois, s'ils ne le font pas, et cela avant le 9 juillet, eh bien, ils seront effectivement déchus. C'est une décision assez rare.
Que faut-il comprendre? Les prêtres n'ont pas leur mot à dire lorsqu'il s'agit de l'évêque de leur diocèse.
Il y a un mécanisme qui fait que les prêtres ont leur mot à dire dans le choix, puisque c'est eux qui désignent les trois qui peuvent éventuellement faire l'affaire. Mais ici, malgré ce mécanisme, la désignation a été décidée par le pape Benoît XVI et les prêtres continuent de contester. L'affaire est grave. Le pape souligne d'ailleurs le danger qu'il y a à apporter la division et le discrédit au sein de l'Église, d'où donc la nécessité de trancher net par cette mesure spectaculaire.
C'était Albert Mianzoukouta, journaliste à Radio Vatican à Rome.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dimanche, les électeurs français se sont rendus aux urnes pour les législatives. Le taux d'abstention se situe à plus de 51% du jamais vu en France. Pour une analyse, Eki Abadou a joint Antoine Jardin, chercheur au CNRS, qui nous explique en quoi l'abstention et les résultats sont liés.
Alors ces résultats sont en fait des résultats qui combinent l'effet de l'abstention et des préférences des électeurs. Il y a eu un phénomène très important, c'est que les électeurs qui avaient fait le choix d'Emmanuel Macron à la présidentielle sont venus voter pour les candidats de la République En Marche, qui expliquent leur très bonne performance dans les urnes. À l'inverse, les électeurs qui avaient choisi la droite parlementaire, la France Insoumise ou le Front National se sont beaucoup plus fortement démobilisés, et ça explique le recul de ces formations politiques lors de cette élection. L'écart entre ces deux dynamiques donne le poids très important à En Marche aujourd'hui, qui peut espérer avoir plus de 450 députés la semaine prochaine.
Donc comment vous voyez le deuxième tour?
Le résultat sera très particulier cette fois-ci, puisque En Marche est relativement limité si on regarde en nombre de voix. Mais ce qui donne toute la puissance à ce courant politique, c'est son positionnement sur le spectre gauche-droite. Comme c'est un courant qui est très central dans le débat politique français, eh bien, il peut l'emporter lorsqu'il est face à la droite, mais aussi lorsqu'il est face à la gauche. Et donc, il a des réserves de voix dans quasiment toutes les configurations, ce qui explique que, malgré son poids de premier tour limité, eh bien, par défaut, il peut agréger énormément d'électeurs autour de ses candidats. Donc en ayant peu de voix au départ, ils vont avoir énormément de députés à l'arrivée, vraisemblablement.
C'était Antoine Jardin, expert en politique européenne. Il était joint à Paris.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Chiki and Sosh, Umbu Shangwa.
pasta. Charlie y Yunda, me mané, mató mi mali. Cambiana, fue que le da. Fue que le da. Cambiana, fue que le da. Fue que le da. Cambiana, fue que le da.
On termine cette édition avec le groupe congolais Sed, Ukelela. La mise en onde, c'était Sims Lumami. La présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.